Maître Beckett, ça aurait dû commencer à 18h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce retard totalement indépendant de notre volonté. Nous vous tiendrons au courant de la suite et nous écoutons maintenant Fradio Volo et Mazzaniello, deux autres ouvertures de Daniel François Hubert par les mêmes musiciens.
Radio Courtoisie.
Musique.
Radio Courtoisie, 18h et presque 47 minutes. Voici enfin le libre journal de Serge de Beketch. Je vous souhaite une excellente soirée. Voici donc cette émission.
Radio Courtoisie.
La radio libre du pays réel.
Et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct aujourd'hui mercredi 15 mai 2002 jusqu'à 21h. Et ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Votre gloire est immortelle.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs pour cette ce libre journal impromptu.
Improvisé brillamment.
Il y avait l'impromptu de Versailles, de Molière, voilà. Alors, en principe, je ne devais faire que la deuxième partie de l'émission, et puis arrivant, Dieu merci, un tout petit peu à l'avant, j'apprends que je fais les 3 heures. Alors, je suis dans la situation vraiment cauchemardesque d'un acteur, comme on le disait tout à l'heure, hors antenne, ma chère Victoria, qui arrive sur scène.
Et qui doit improviser.
Et qui ne sait plus, quelle pièce il doit jouer et ce qu'il doit dire. Alors ça, je veux dire que c'est l'horreur. Enfin, en tout cas, je présente aux auditeurs, toutes nos excuses, évidemment. Pour cette
les excuses les plus plates.
Oui, même volumineuses d'ailleurs, on peut leur mettre un peu de volume parce que c'est triste quoi. Voilà. Mais on va essayer quand même jusqu'à parce que en principe moi j'ai mon programme prévu à partir de 7h30 mais il nous reste 3 petits quarts d'heure à discuter donc on va essayer de discuter avec les auditeurs. Alors je salue bien sûr la présence de chère Victoria dans le studio, ma chère Victoria.
Bonsoir.
Vous allez m'aider beaucoup ce soir hein.
Mais nous allons dire n'importe quoi comme d'habitude.
Je ne vous appellerai pas ma petite Victoria, mais...
Non,
parce que j'ai besoin de vous ce soir. Et puis également la présence, déjà, Dieu merci, qui est arrivée de Cécile Adem, qui est en principe prévue pour la seconde partie, qui va déjà commencer la première partie.
Bonsoir aux auditeurs, hein? Et bien nous allons essayer de leur fleurir ce petit moment.
Voilà, c'est très joli, mais il ne faudra pas vous plaindre après, hein? vous aurez du temps.
Pour une fois,
vous exprimer. Alors, de quoi allons-nous parler pour cette première partie, ma chère Victoria? Voulez-vous que nous parlions un peu de politique en attendant que...
Oh, la politique, oui, moi j'ai... J'adore.
Nos chers auditeurs nous posent des questions, nous fassent des remarques sur ce que nous n'avons pas dit d'ailleurs, ou nous interrogent. Alors dites-nous, vous qui parlez jamais, vous qui êtes juste une espèce de faire-valoir, de comment ça s'appelle, comment on appelle les acteurs qui sont des silhouettes. Mais là non, des utilités, parce que là vous dites quelques petits mots de temps en temps.
Oui.
Ah bah alors dites-nous un gros mot là.
Ah bah non, j'ai pas peur. Ne me tentez pas, Daniel.
Alors bon, de quoi nous allons parler un petit peu de politique, si les auditeurs le veulent bien dans cette première partie improvisée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé effectivement au second tour des élections présidentielles. Et Franck, notre technicien préféré, me dit qu'il y a Serge de Bekech en ligne, pour bien comprendre que je ne vole pas la place de Serge. Mon cher Serge, est-ce que vous êtes au téléphone ?
Oui, je suis là.
Alors écoutez, donc c'est la panique absolue dans le studio, oui. Comme vous pouvez l'imaginer. Enfin bon, c'est plus agréable pour vous que pour moi.
Je pense que c'est ce qu'on appelle un fâcheux malentendu.
C'est un fâcheux malentendu. Mais je suis quand même content de vous avoir, parce que grâce à vous, nous allons pouvoir tirer jusqu'à 7h30. Et pour une fois, vous ne me prendrez pas de temps.
Alors je crois qu'il
faut prendre ça avec beaucoup de bonne humeur. Nous avons présenté tous nos regrets.
Il faut dire la vérité aux auditeurs, oui. Je pense qu'ils le méritent.
Dites pas n'importe quelle vérité. Hein.
Non, la vraie vérité, c'est que nous avons fixé un programme dans lequel je devais venir une heure et demie, puis vous une heure et demie.
Oui.
Ensuite, nous avons modifié ce programme, nous l'avons remodifié
encore,
et finalement, à force de modification, eh bien, on en est resté sur deux positions différentes. C'est-à-dire que on va arrêter ce vouvoiement en ridicule. Toi, tu pensais.
Je vous en prie, mon cher Serge.
Je faisais la première partie et toi la deuxième.
Oui.
Et moi, je pensais que tu faisais les 3 heures, puisque je m'occupe de mon journal et que je n'avais pas le temps matériel de venir à la radio pour faire une demi-émission. Et voilà, le résultat, c'est que pendant une demi-heure, ou presque 3 quarts d'heure, ils sont restés à écouter de la musique qui était excellente.
Nous,
d'ailleurs.
À nous téléphoner.
À téléphoner beaucoup.
Où est-il?
Amish a pris enfin son fauteuil et tout, parce que je connais certains de nos auditeurs. Serge, alors, puisque nous sommes ensemble, eh bien, nous allons rester ensemble jusqu'à 7h30. Et puis nous allons un petit peu parler. Bah, de quoi peut-on parler, nous autres, journalistes politiques, de politique? On va parler un peu de politique.
On va parler de politique, oui.
Bon, alors si tu veux, je lance un petit peu la discussion,
voilà,
puis on discute un petit peu. Alors moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé à l'occasion des élections pestilentielles. Et je dirais que ça me rappelle un petit peu, enfin tu t'en souviens, puisque nous sommes de la même génération, ça me rappelle un petit peu la blague de Fernand Reynaud, un sketch de Fernand Reynaud en prise avec son tailleur, et qui se ponctuait toujours par « il y a comme un défaut ». Alors, je dirais que ce qui m'a semblé curieux dans les résultats de ces deux tours, c'est que le président sortant candidat, ou le candidat président sortant, ou le candidat sortant président, qui a fait
ça devait être le candidat sorti, et puis finalement...
Eh bien voilà, mais ça on va en parler. Qui a fait en fin de compte le plus mauvais score de toute l'histoire de la Ve République depuis... La loi sur l'élection du président de la République au suffrage universel, se soit retrouvé dès le soir du deuxième tour comme étant le candidat le mieux élu de la Ve République. C'est quand même, alors comme dirait Fernand Reynaud, je dirais, il y a comme un défaut.
Moi, c'est pas tellement ça. Enfin, c'est tout à fait évident, puisque quand on voit le matraquage qui a été fait par tout le monde, enfin... par tout le monde, les curés, les rabbins, les pilotes d'hélicoptères,
les déboucheurs de lavabo,
les politiques bien sûr, les journalistes,
les chiens en laisse, enfin,
les syndicats, les bon, tout, c'est-à-dire que bon, y compris les gens qui ne votaient pas, qui n'avaient aucun titre à voter, donc c'est que Chirac ait fait un score tchéochesquien, c'est à peu près normal. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette histoire, ce qui est stupéfiant, c'est que dans un pays comme la France, où depuis maintenant, si on veut bien considérer les choses de façon sérieuse, un bon siècle, peut-être deux, et peut-être plus de deux, le matraquage démocratico-parlementaro-républicain est incessant. Dans un pays où tout ce qui est tant soit peu rattaché aux valeurs traditionnelles est considéré comme une abomination de la désolation, puisqu'on ne peut même plus dire aujourd'hui qu'on qu'on est.
Et d'ailleurs, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire.
Travail, sa patrie et sa famille. Enfin, c'est, on est arrivé à des choses comme ça. C'est renversant. Quand on pense qu'aujourd'hui, si vous dites une chose, si on dit une chose aussi évidente que je préfère en France donner du travail à des Français qu'à des étrangers, on est considéré comme un nazi, comme un national-socialiste.
Oui.
Bon,
ce que nous ne sommes pas, ni vous ni moi.
Ce qui est d'ailleurs une loi socialiste. Je rappelle que la loi de préférence nationale pour défendre la race française, entre guillemets, c'est la loi Salengro. Oui. Salengro, c'était quand même un ministre de gauche. Oui. Il ne faudrait pas l'oublier.
Salengro, bon. Et en détail.
Et en détail, et propre en... Non, on disait Salengro, propre en détail. Donc, dans ce pays-là, après deux siècles d'abrutissement complet, après 50 ans de télévision, de matraquage télévisuel, radiophonique, etc., et après 15 jours de folie furieuse, stalinienne, trotskiste, tout ce qu'on veut, maoïste, de pensée unique, il y a encore 6 millions de personnes qui disent « Non, non, nous, on ne marche pas. »
Voilà, il y a encore...
Nous,
y a encore
on ne marche
voilà.
pas, voilà.
Ça, ça rassure.
Vous nous emmerdez, on votera pour qui on veut, et c'est pas qui vous voulez, vous.
Ça rassure, il y a encore un petit reste. Il y a encore un petit reste.
S'il y avait eu 6 millions de résistants en 40, les Allemands, ils ne restaient pas 2 heures. D'abord, ils ne seraient pas rentrés.
Mais là, tout à l'heure, tu as dit une chose intéressante, on va rebondir là-dessus, puis on va continuer notre discussion, notre aimable discussion au téléphone. C'est de dire, on a vécu, depuis le soir du premier tour jusqu'à aujourd'hui, quasiment, dans un système soviétique. Et moi, je disais aux auditeurs la semaine passée que... C'est vrai que le dimanche soir du premier tour, je m'étais endormi à Paris, que je me suis réveillé le lendemain à Pyongyang.
Oui, j'ai alors... entendu que tu disais ça, parce que où j'étais en vacances, on avait,
ah, c'est bien.
On avait TPS. Et
ah,
on...
bah, c'est bien.
Écoutez ton excellente émission.
Monsieur est trop bon. Peut... Oignez vilain, il vous poindra. Alors, je dis, pourquoi cela? Parce que, bon, c'est vrai que... Alors, avec quand même deux nuances... que j'ai souligné et que d'ailleurs Adeline a repris la
oui,
semaine dernière.
Oui, je t'entends parler d'Adeline.
D'ailleurs. Oui, oui, oui. On va en parler. Il est pas là, c'est gênant, mais on peut en parler.
C'est dommage pour lui.
C'est dommage pour lui. Ça va être sa fête. En disant, il y a quand même une grande différence, c'est que au moins à Pyongyang, les gens savent défiler en ordre. Ce qui n'était pas le cas de toutes les manifestations de pégreleux, de fumeurs de pétards et de trempes qu'on a vues s'échiner.
C'est pour que la gauche socialiste n'est pas en progrès, parce que
non.
La gauche socialiste, elle défilait en ordre à Moscou, elle
oui.
défilait en ordre à Pékin,
oui.
elle défilait en ordre à Pyongyang,
bon. Tout
défilait,
à, fait.
À Berlin, elle a défilé
à Berlin en... aussi. Oui, oui.
Et ils avaient même inventé, la gauche socialiste avait inventé à Berlin un truc qui s'appelle Pas de loi, qui était absolument superbe.
Magnifique.
Et qui était copié d'ailleurs, ou qui était également le pas auquel marchait la gauche socialiste.
Marchait Georges ou... Non, pas marchait Georges.
Ah, mais marchait, il a marché. Il a marché des deux.
Il a surtout plus tourné que marché quand même.
Donc toute la gauche socialiste marche toujours en ordre. Et
oui.
Là, je sais pas ce qui se passe. Ça doit pas
le
être
bazar.
Une gauche socialiste, ça doit être une gauche trotskiste. Ou
voilà, c'est ce que j'ai toujours.
Gauche,
voilà, je dis donc, camarade, encore un effort si vous voulez être révolutionnaire. Parce que là, c'est pas le pied. Et alors, la deuxième nuance, c'était que à Pyongyang, il y a une chaîne de télé.
Ouais.
Il y a une radio
ouais.
et il y a un quotidien qui disent tous la même chose. Mais en France, parce que je crois que c'est ça la loi du pluralisme en fin de compte, et c'est en ça que nous sommes un pays développé, nous avons 60 chaînes de télévision, 250 chaînes de stations de radio, et je ne sais pas, 40 ou 50 quotidiens et autant d'hebdomadaires, mais tous disent la même chose. Mais c'est le pluralisme.
Je suis pas certain que ça soit un progrès d'avoir 60 chaînes de télévision.
Pour les arbres, c'est pas un progrès. Pour les arbres, c'est pas un progrès.
C'est mieux de pas en avoir du tout, déjà.
Alors, je disais, ça, c'est bon. Alors, deuxième truc, il y a comme un défaut. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand on y réfléchit, on est, je veux dire, on balance entre le fou rire et les larmes amères. Quand on pense que les gens qui ont voté dimanche du deuxième tour pour Chirac, le matin, défilé le soir, place de la Bastille, en clamant Chirac démission. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quand même... On vit une époque épatante.
Moi, il y a deux choses ce soir-là qui m'ont fait... qui m'ont rempli de bonheur. Trois choses. La première, c'est de voir que au paquebot,
Le paquebot, c'est le quartier général du Front National.
Les militants avaient réagi d'une façon extrêmement sympathique. Et eux, ils ont compris tout de suite que c'était vraiment une victoire quand même. Même si c'est une défaite électorale. C'est une victoire politique extraordinaire de penser que, je le répète, il y a encore 6 millions de dissidents en France.
Oui.
Ça, c'est extraordinaire. Bon. La deuxième chose qui m'a fait plaisir, c'est effectivement de voir toute cette vomissure, toute cette raclure, toute cette racaille défiler en criant Chirac démission. Ce qui est une imbécilité noirade, parce que s'il les avait pris au mot qu'il démissionne, étant donné que Jospin a dit « je ne ferai plus de politique », il y avait donc des élections présidentielles dans la foulée, étant donné que Jospin a dit « je ne ferai plus de politique », le Parti Socialiste aurait immédiatement explosé en 12 tendances, qui aurait présenté chacune leur candidat.
« Sicut canis qui revirtutur at vomitum su hum ».
Et absolument, le chien, comme le dit l'écriture, le chien retourne toujours à sa vomissure. Et donc Chirac se serait représenté, les socialistes auraient présenté 12 candidats, les trotskistes en auraient présenté 4, les communistes en auraient peut-être présenté 3 ou 4, pourquoi pas, au point où ils en sont de toute façon. Les centristes en auraient présenté 3 comme d'habitude. Et on aurait eu un deuxième tour des élections présidentielles avec Le Pen et Chirac face à face. Ça pouvait durer indéfiniment,
indéfiniment.
Alors ça, c'était donc... Et la troisième chose qui m'a vraiment, qui a provoqué en moi une espèce de joie mauvaise, mais j'en suis désolé parce que...
Ah, parce que t'as un mauvais fond, hein.
Ah oui, j'ai très mauvais fond. C'est de voir, on va me passer l'expression, la tronche de Bernadette sur l'estrade de l'avenue, de la place de la République.
Eh oui, c'était Madame Ceausescu, qui s'apercevait de quelque chose.
Ah, là, elle a compris quelque chose. Parce que, je suppose qu'elle ne sort pas souvent de chez elle, et elle ne doit pas être au courant qu'il y a quelques immigrés en France.
Je crois qu'elle
le sait. Elle s'attendait à arriver, visiblement, elle s'attendait à arriver à la place de la République, accueillie par une marée de drapeaux bleu, blanc, rouge, et de beaux jeunes gens bien chics, des quartiers élégants, qui votent Chirac, parce que c'est propre, et c'est bien, et puis Chirac, c'est un beau jeune homme sage, etc. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu une énorme masse, d'abord où il n'y avait que des hommes.
C'est vrai.
Que des hommes. Exclusivement des Africains, nord ou sud-sahariens, et qui brandissaient des drapeaux marocains, tunisiens et algériens.
Oui.
Mais c'est au point que quand ils sont arrivés, on a vu la scène en direct à la télévision, il y a eu une grande discussion parce que les flics ne voulaient pas laisser Chirac accéder. Ils étaient très inquiets. Au point que Chirac et Madame sont remontés dans leur voiture, qu'on a vu les essuie-glaces, parce qu'en plus il pleuvait à torrents, comme chaque fois que la France est en proie à une catastrophe du genre élection de Mitterrand en 81 ou réélection de Chirac en 2002, il y a des tempêtes et des averses et des trombes d'eau. Et là donc il y avait des trombes d'eau qui s'abattaient sur la racaille qui était présente sur cette place. Et donc, on a vu les essuie-glaces de la voiture présidentielle se mettre en marche. On s'est attendu à ce qu'elle parte pour filer à l'Elysée. Et puis finalement, je pense que Chirac s'est dit « je peux pas renoncer ». Il est ressorti, il est monté, il a tenu un discours halluciné avec Bobonne qui était à côté de lui, qui était visiblement à la fois pétrifié d'horreur et de terreur.
Ça c'est clair. Et pourtant, il y a eu une chose qui n'est pas passée, mais moi je l'ai entendu parce que j'ai la troisième oreille. Il y en a qui ont le troisième œil ou cette troisième oreille. Chirac aurait dit, place de la République, « moi vivant, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur la Bastille ».
C'est lui qui a dit ça? Ah, je ne me souvenais pas.
Non, mais écoute, il s'inscrit dans une longue tradition.
Ouais.
Voilà.
Et alors,
c'était ma petite saillie de ce soir.
Oui. Comme disaient les talents. Et donc, j'ai passé une très très bonne soirée. J'aurais passé une meilleure soirée si Le Pen avait fait 54%, mais à vrai dire, je ne sais
pas. Non, mais il ne fallait pas rêver quand même. Il ne fallait pas rêver. Et moi, je pense, tu sais, je l'avais dit, je ne sais pas si on en avait parlé ensemble au téléphone, parce que je trouve qu'on se parle assez peu au téléphone, d'ailleurs. Il faut dire la raison, et c'est la raison pour laquelle ce soir, il y a eu ce petit loupé, c'est qu'on ne se cause pas assez souvent.
Est-ce qu'on a présenté des excuses aux auditeurs?
Ah oui, ça a été fait, mais tu peux en présenter aussi, tu peux rajouter une couche, c'est pas interdit. Moi, j'ai mis le beurre, tu peux mettre la confiture.
Moi, je veux bien m'excuser, mais
ce
n'est pas de ma faute.
Ah, ça y est, ce n'est pas de ta faute. Bon, je disais, on ne se téléphone pas assez, et ceci pour dire, j'avais eu cette idée. Dans les quelques jours qui précédaient le second tour, moi je suis pas un homme politique ni un politicien, tout ça c'est des choses qui me sont un petit peu obscures, mystérieuses, mystagoriques, mais compte tenu de ce qu'on pouvait penser, non pas sur la base des sondages officiels, mais des quelques rares sondages officieux qui ont pu nous tomber sous les yeux entre, disons, le jeudi et le dimanche, je crois que la bonne position pour le Pen eût été de décider, de déclarer samedi devant toute la presse, enfin celle qui accepterait de venir jusqu'à Saint-Cloud, qu'il retirait sa candidature du deuxième tour.
Et quel aurait été l'avantage de cette opération?
L'avantage était considérable, c'est-à-dire que, eh bien, il montrait que nous allions avoir une élection de président d'une république bananière, cette fois-ci un seul candidat. Ce qui est quand même, parce qu'en Afrique, on a fait beaucoup de progrès. Maintenant, pour les élections présidentielles, on a 10, 12, 15, 20, 34 candidats. Et puis surtout de donner rendez-vous aux Français pour les législatives en disant, écoutez, voilà, bon, vous avez un président d'une république bananière, débrouillez-vous avec.
Oui, moi, j'ai là-dessus une position qui est légèrement différente, j'imagine, parce que
j'en suis sûr.
Dire une chose, c'est que quand un homme s'engage dans un combat politique comme celui de la droite nationale, il affronte tout ce qu'un être humain peut affronter en matière de vanille, de saleté, de calomnie, de crapulerie, de danger, de tout. C'est vraiment, il s'engage pour une vie de cauchemar. Quel qu'il soit, alors là je dis aussi bien Le Pen que Maigret, que d'ailleurs les autres personnages en vue du mouvement national. Ils subissent les pires saloperies qu'un homme puisse subir. Le mépris, la haine, les crachats, les avers, enfin c'est inimaginable, c'est invivable. Leurs femmes et leurs familles aussi. Bon. Personne n'accepte, très très peu de gens acceptent de faire ça. Très peu de gens acceptent de subir ce qu'ils subissent. En plus, dans le cas de Le Pen, il a pris en main une droite nationale qui était explosée, et il l'a conduite à travers des tas de péripéties, des tas de problèmes, de difficultés, d'avanies, et aussi de, disons le mot d'erreur, il l'a conduit où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire où elle rassemble en gros 6 millions de citoyens.
5,5, c'est pas mal déjà.
Oui, et puis ceux qui sont pas réveillés, bon, ceux qui ont cru que quelqu'un allait voter pour eux.
5,5, voilà, il faut dire les chiffres comme ils sont. 5,5, c'est déjà, c'est bien, 5,5, c'est bien.
J'aime bien le chiffre de 6 millions.
Oui, d'accord, mais je comprends pourquoi, mais moi je suis pour 5, ouais, 5 moi je suis un peu, j'allais dire que je suis un petit peu, non pas révisionniste, mais enfin, je tempère les chiffres, je dirais que nous avons 5,5 millions de Français qui ont exprimé, qui ont fait un bras d'honneur à l'institution.
Ne l'antiponons point.
Voilà.
En tout cas, il l'a amené là. Et alors, une fois qu'il en est là, il y a la marée, enfin chaque fois qu'un homme politique de notre milieu, et des autres milieux, mais des autres milieux je m'en fous, mais de notre famille, chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a autour de lui les camarades conseillères qui disent, ah mais moi j'aurais pas fait ça, moi il aurait pas dû faire ça, oh il a eu tort de dire ça, il aurait pas dû dire ci, il aurait pas dû, bon, tout ça c'est très joli.
Non mais attends, j'ai dit ça avec beaucoup de prudence.
J'ai bien compris, mais je parle en général.
Je voulais le dire sur courtoisie, et je ne l'ai pas dit par délicatesse, une délicatesse qui n'est pas toujours réciproquée par le principal intéressé. On regarde mon mouvement.
T'es un mouvement, toi?
Oui, enfin, bah, je parle pour un mouvement. Oui, vas-y, continue.
Alors, donc, tout ça, c'est très joli. Je pense réellement une chose, c'est que, où on s'engage sérieusement, et on s'engage en mettant sa peau au bout de ses idées. Et à ce moment-là, on a le droit de la ramener. Ou on met pas sa peau au bout de ses idées, et à ce moment-là, on doit dire, bon, bah, je vote pour lui, c'est vrai que c'est pas absolument parfait, c'est pas toujours ça, mais au moins, lui, il le fait. Et je voudrais citer un exemple de ça. C'est, en dépit de ce qui s'est passé, moi, je dois dire que j'ai été tout à fait frappé par la rapidité et l'absence totale de calcul avec lequel Maigret, le soir même, a dit « J'appelle tous les militants qui ont voté pour le MNR pour moi au premier tour à reporter leur voix sur Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. » Ça, j'ai trouvé ça formidable. Je dois dire que je regrette l'attitude de l'autre côté, où on a entendu un type comme Dubois dire « Mais on n'a pas besoin d'eux, il faudra les fusiller », tout ça. Alors vraiment, c'est intolérable. Ce sont des déclarations qui sont absolument inacceptables.
Mais n'était-ce pas aussi un petit peu la position de Jean-Marie Le Pen, là, au début de cette semaine?
Ah, je sais pas. Moi, j'ai pas entendu ça. En tout cas, je parle de ce...
Bah, les auditeurs de Radio Courtoisie l'ont entendu. Il a été un petit peu sévère. Enfin, je le comprends, sa sévérité. Parce que pour lui, évidemment, les maigrettistes sont des traîtres. Mais je crois qu'il faut,
pour essayer de reconstruire, oui. Ou de, plus exactement, non pas de reconstruire, mais de consolider ce qui a été construit. Voilà.
Bon, oui.
Moi, je crois que vraiment, si on pouvait arrêter de se tirer la bourre pour des sottises.
Et tu sais que c'est pas possible. Alors, c'est en tout cas extrêmement difficile.
On peut toujours rêver. Bon. Ouais. Après tout, il y en a d'autres qui rêvent aussi. J'entendais M. Griotret l'autre jour qui rêvait que les choses allaient bien se passer aux législatives, hein, et qu'on allait trouver un terrain d'entente. Et là, je crois qu'il faut mettre les choses au point tout de suite pour que ça soit parfaitement clair. On va nous resservir, après les législatives, au moment des législatives, l'argument selon lequel la droite nationale fait passer la gauche en se maintenant au deuxième tour. Bon. Alors, il faut être parfaitement clair. Dans cette affaire, c'était un argument qui était déjà pas recevable avant, quand la droite nationale faisait des scores inférieurs à 10%. Même, ou en tout cas, de l'ordre de 10%, ce qui lui permettait de se maintenir dans des triangulaires. Mais maintenant...
12,5,
voilà. Mais maintenant, là où on en est, il faut savoir que au deuxième tour, en nombre de voix, Jean-Marie Le Pen a réalisé à peu près le même nombre que Jacques Chirac au premier tour.
C'est tout à fait vrai, j'allais faire la précision. C'est exactement vrai à quelques milliers de voix près.
Voilà, ce qui veut dire que l'électorat RPR est le même, ou l'électorat chiracien,
pèse autant que
l'électorat lepéniste. Par conséquent, en toute justice démocratique, vous excuserez cet oxymore, le premier tour des législatives, quand il mettra en triangle un socialiste, un RPR et un Front National, mettra en opposition trois candidats qui pèsent le même poids. Et il n'y a absolument aucune raison pour que on accuse le candidat Front National de faire passer la gauche, pour le cas où il ne se retirerait pas. La seule question qui va se poser, c'est de savoir combien précisément chacun des candidats de la droite a fait de voix, et il faudra dans tous les cas que le candidat qui a fait le moins de voix se retire en appelant à voter pour le candidat qui aura fait le plus de voix. Voilà, ouais. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ne le feront pas seront responsables individuellement, et leur parti est responsable généralement, enfin globalement, de l'élection éventuelle des candidats de gauche. Cela dit, si la gauche obtient la majorité aux législatives, ça sera pas dramatique du tout, parce qu'il va se passer en bonne logique ce que j'ai annoncé au lendemain du premier tour, c'est-à-dire que Chirac ne pourra pas gouverner. Il sera donc obligé de démissionner. Il ne pourra pas gouverner.
C'est une
impossibilité absolue. Et par conséquent, il y aura de nouvelles élections, et puis on reviendra à la case départ.
Ouais, ouais.
Et c'est d'ailleurs intéressant, parce que c'est la preuve que ce système ne peut pas fonctionner, et que le système de la Ve République est un système aberrant. Notamment, je dois dire que je me suis rendu, alors que j'étais pas du tout convaincu de ça, mais je me suis rendu aux arguments de Jean Ferret là-dessus. L'élection du président de la République au suffrage universel est une imbécilité criminelle. Bon, et là, d'ailleurs, l'élection au suffrage universel est une imbécilité criminelle, mais tout spécialement quand il s'agit du président de la République.
Et là, nous sommes d'accord là-dessus. Il vaudrait mieux un roi héréditaire dans la primogéniture mâle, comme ça au moins on serait tranquille à cet égard que
Alors justement, pourquoi...
Alors à propos de roi, tu voulais nous dire quelque chose sur Yves-Marie Adine qui n'est pas là, mais qui saura tout, parce que je vais tout capter.
On a parlé de Chirac, il n'est pas là non plus, on a parlé de Le Pen, il n'est pas là, on a parlé de Maigret, il n'est pas là.
Oui, mais enfin
si on ne parle que des personnes présentes, on est obligé d'échanger des souvenirs.
Il faut dire que Yves-Marie Adine, quelle que soit l'affection qu'on lui porte, ne se bat pas exactement dans la même catégorie que Chirac, Le Pen ou Maigret quand même.
Non, mais entre les deux tours, sinon lui, du moins des gens de son organisation qui s'appelle l'Alliance Royale, ont appelé, d'une façon absolument catégorique, à voter pour Chirac.
C'est faux.
Mais enfin.
C'est faux. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Non, mais c'est absolument faux.
Du texte.
Mais j'ai le texte, je l'ai reçu comme toi-même. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose là-dessus, puisque tu me fais l'amitié de m'orienter sur ces choses. J'ai reçu également, comme toi, par l'Internet, qui est un peu comme la langue d'Ésope. Le meilleur ou le mal, des choses extrêmement affligeantes et tristes qui me fait penser que, enfin, qui me fait douter de la bonne foi de ceux qui envoient ce genre de messages, encore une fois, mais là, c'est tellement, là, on est en train, c'est quasiment ésotérique pour les, pour les auditeurs.
On est en train de tenir des propos absolument ésotériques. Moi, je dois dire que j'ai posé la question à l'auteur de ce texte, qui était un appel catégorique à voter Chirac, mais pire que ça, un appel terrorisant, c'est-à-dire en disant il faut absolument pas, en aucun cas, c'est l'horreur, on n'a rien à voir avec Le Pen, c'est Vichy, etc. Enfin, un monceau de conneries absolument inexcusable. Et j'ai posé la question à l'auteur supposé de ce texte, je lui ai dit clairement, oui ou non avez-vous écrit ce texte ? Il m'a répondu, mais où avez-vous vu ce texte ? Alors je lui ai dit où je l'ai vu. Et je lui ai dit, je vous pose la question une deuxième fois. Oui ou non l'avez-vous écrit ? Répondez-moi par oui ou par non, c'est quand même facile. Hein. Il m'a dit, mais on ne peut pas faire confiance à un site internet qui émet depuis la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires-là ? Est-ce que oui ou non il a écrit ce texte ou pas ? Il refuse de me dire catégoriquement. Enfin, il a fini par me dire que, de toute façon, comme il n'avait pas de responsabilité de direction, alors qu'il est quand même, il occupe un des principaux postes de la boutique, sa position n'avait pas d'importance et n'engageait pas l'Alliance Royale. Moi, tout ça, c'est du pinaillage, tout ça, c'est du de la poudre aux yeux. La vérité, c'est qu'il y a un des dirigeants de l'Alliance Royale qui, d'une façon parfaitement claire et parfaitement scandaleuse et odieuse, a appelé violemment à voter pour Chirac contre Le Pen, accusé d'être une créature de la résurrection du vichisme et autres balançoires. Mmh. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. Parce
alors,
que
moi, je crois qu'il ne faut pas, Serge, il ne faut pas faire de procès d'intention sur une association politique dont aucun des responsables n'est ici pour se défendre ou pour donner une explication.
Non, mais, moi, je suis,
je ne suis, moi aussi, j'ai donc, et tu le sais très bien.
J'ai posé la question plusieurs fois à l'intéressé, je lui ai posé la question trois fois.
Ouais.
D'une façon absolument claire, je lui ai dit textuellement, oui ou non, êtes-vous l'auteur de ce texte qui déclare que Le Pen est évidemment la bête immonde.
Alors, c'est un texte qui a paru. C'est un texte qui a paru absolument dans aucun organe officiel de l'Alliance Royale. On ne le sait uniquement.
Il a été envoyé par l'intéressé à tous les dirigeants de l'Alliance Royale qui l'ont fait circuler.
Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce texte. Je n'en ai eu connaissance qu'en lisant le pamphlet envoyé par les adversaires d'Yves-Marie Adeline.
La seule chose intéressante dans cette histoire.
Ça y est, on va se fâcher.
Non, on va pas se fâcher.
Si, on va se fâcher.
La seule chose intéressante vraiment dans cette histoire, c'est la chose suivante. Yves-Marie a voulu lancer un mouvement royaliste sur des bases démocratiques électorales.
Pas démocratique, sur des bases électorales. Tu sais combien je suis extrêmement, et il le sait lui-même d'ailleurs, on en a suffisamment discuté ensemble, je suis extrêmement, j'ai beaucoup de retenue vis-à-vis de son initiative.
Je lui avais dit de façon parfaitement claire, je lui ai dit d'une façon très claire à plusieurs reprises que c'était à mon avis une ânerie, parce qu'il faut pas mélanger, il faut pas tout mélanger. On fait un mouvement royaliste pour la restauration et la, pour préparer le retour d'un roi, du roi, du seul roi, qui est l'aîné de la famille, où on fait un mouvement politique, mais on peut pas faire les deux. C'est bon pour les orléanistes, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, moi je pense qu'en tant que légitimiste, on ne pouvait pas faire ça. Il a voulu le faire, je lui avais dit, ça tournera en jus de boudin, ça tu peux en être absolument certain. Le résultat, c'est qu'évidemment, ça a tourné en jus de boudin. Parce que naturellement, là-dedans, tout le monde essaye de tirer la couverture à lui, puisqu'on va faire de l'électorat, donc il faut faire élire les copains, ou il faut pouvoir présenter des copains qu'on va faire élire.
Ça, c'est pas faux.
Et puis, tout le monde s'exprime, puisqu'on est en démocratie. Alors, parce que s'il y a des élections, c'est démocratique, et si on est en démocratie, la parole de tout le monde vaut la parole de n'importe qui. Donc, n'importe qui ouvre son four et dit, moi je pense ça, moi je pense ci, et envoie ses petits pamphlets. Alors, quand le type en question occupe un poste de responsabilité important dans le mouvement, ça engage le mouvement, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que j'ai jamais voulu adhérer au Front National ou au MNR, c'est tout simplement pour pouvoir continuer à ouvrir ma bouche sans engager qui que ce soit d'autre que moi-même dans ce que je disais. Mmh. Bon, alors, donc tout ça, ça serait absolument sans intérêt, si le projet d'Yves-Marie Adeline n'était pas de présenter des candidats, de présenter une liste aux européennes. Mmh. Or, il est évident que, à partir du moment où il a pris la position qu'il a prise, où il a laissé prendre les positions qui ont été prises, il se met au niveau de Madame Boutin. Madame Boutin, elle a amusé le tapis pendant quelques temps en faisant croire que sa seule idée, c'était de défendre la famille, etc., etc.
Non, mais il a pris...
Ce qu'on a vu à la fin...
Attends. Lui-même n'a pris aucune position.
Non, je parle des responsables de son mouvement.
Non, mais ça, alors là, c'est à lui. Ça regarde, c'est des occidentales. Je ne peux pas laisser dire ça, parce que c'est un... Tu sais que Yves-Marie Adine est un vieux... Un copain, un vieil ami de 20 ans. On peut pas laisser penser aux auditeurs que il a appelé ou il a laissé appeler à voter pour Chirac. Enfin, c'est tellement loin, éloigné de tout ce qu'il pense et de tout ce qu'il. C'est hallucinant, quoi.
Dans le prochain numéro du Libre Journal, je vais publier les textes en question, avec tous les textes, c'est-à-dire les réponses des gens que j'ai interrogés, etc. Puis les lecteurs. Ils jugeront, ils verront bien ce qu'ils ont à penser. Après tout, ils sont largement adultes et ils ont le droit de se faire une opinion. Je reviens sur ce que je disais à propos de Madame Boutin, c'est exactement le même processus. Il s'agit de systèmes, on a l'impression que on envoie, voilà ce que je veux dire, il y a en matière de défense aérienne un système qui consiste à envoyer des tas de petits moules d'aluminium en l'air qui troublent les missiles qui vont frapper un avion.
Les systèmes de contre-mesure.
Voilà. Bon, eh bien là, on est exactement dans cette situation. Chirac se présentait, il a envoyé tout un tas je parle pas du tout d'Adeline, parce que ça n'a plus rien à voir. Mais notamment Lepage, Boutin et compagnie, il a envoyé tout un tas de petites feuilles de plastique, d'aluminium, qui sont parties dans tous les sens, et qui ont détourné l'attention, qui ont pris 1,5%. On a vu des gens qui, naturellement, auraient dû voter pour le Front National, parce que c'est le seul mouvement, enfin, pour Le Pen, parce que c'est le seul candidat qui a dit d'une façon parfaitement claire qu'il était le candidat de la défense de la vie. Ces gens-là auraient dû voter pour lui, et en réalité, ils ont voté pour Madame Boutin, parce que Madame Boutin s'est fait passer pour le parangon des vertus anti-abortives. Et au deuxième tour, elle a dit immédiatement qu'il fallait voter Chirac. C'est quand même incroyable qu'une femme qui a obtenu un peu plus d'1% des voix sur le seul fait qu'elle était contre l'avortement, appelle à voter pour le Premier ministre, pour le candidat qui a été le Premier ministre signataire de la loi pour l'avortement.
Prendre
les gens pour des cons.
Ça a été dit, on l'a dit, on s'est étonné, enfin on a fait des fausses...
Et Lepage, alors là on est au fond du...
Non, là on arrive au fond de la cuvette.
Oui, c'est ça, il faut creuser parce que arrête de ramer, t'attaques la falaise. Voilà cette femme qui se présente comme candidate écolo, et qui naturellement était totalement téléguidée par l'Élysée, puisque pendant la campagne, je sais très bien qu'elle passait ses coups de fil depuis un bureau de l'Élysée pour organiser sa campagne. Bon, alors, il se trouve que je le sais pour des raisons techniques. Bon. Alors, elle avait son bureau à l'Élysée et elle s'occupait de sa campagne depuis l'Élysée. Donc, c'était un candidat téléguidé. Cette femme-là, à peine a-t-elle la campagne est-elle terminée et le gouvernement est-il constitué qu'elle lance un pélo contre Madame Bachelot, qui a vraiment pas besoin de ça. Tout simplement, ça c'est pure jalousie, parce qu'elle pensait qu'elle aurait...
Elle s'imaginait déjà,
ce qui est une idiotie, parce qu'évidemment, Chirac ne pouvait pas donner un ministère à quelqu'un qui avait été candidat contre lui, enfin ça aurait été grotesque. Mais elle espérait quand même l'avoir. Bon, c'est Bachelot qui l'a, qui dit, alors que Bachelot ne cesse pas de dire des âneries, pour une fois elle dit quelque chose d'intelligent, et naturellement lui saute à la gorge en disant que c'est un scandale de défendre le nucléaire, etc. Bon, tout ça, c'est lamentable. Moi, ce que je trouve... Alors, un autre motif de surprise, je disais, c'est les... Je tiens à mes 6 millions, je t'accorde tes 5 millions et demi de Français qui continuent à être...
Pas les miens
qui restent dans la dissidence. Mais ce qui me stupéfie encore plus, alors, c'est qu'ils se trouvent encore... Je sais pas combien, j'ai pas en tête le compte exact, mais je crois 30 millions de Français pour se prêter à cette infecte mascarade imbécile, grotesque et dérisoire qu'est le suffrage universel. Enfin, le seul fait de voir quel candidat se présente à leur suffrage devrait dissuader les gens d'aller, ne serait-ce que de dépenser un centime de semelle de chaussure pour aller jusqu'au bureau de vote.
Alors Serge, il faut qu'on... D'abord, il nous reste 4 minutes. Merci beaucoup. Tu as fait ta première partie, enfin presque, et pour une fois c'est moi qui te prends du temps. Mais alors il y a beaucoup de messages auditeurs, alors tu les écoutes avec nous et puis si tu veux tu réponds.
Surtout le premier, en écoutant cette émission, je me demande si vous ne devriez pas désormais vous abstenir de préparer vos émissions. Mille bravos à tous deux pour cette brillante improvisation.
Et ben voilà un conseil qui ne sera pas oublié.
C'est pas tombé dans l'oreille
de deux sourds.
Les nationaux, plus les blancs et les nuls, cela fait quand même 39% de résistants au matraquage.
Premier tour.
Oui,
premier tour.
Oui. Question. Non, au deuxième.
Deuxième, ouais, ça fait pas 39.
Très bien,
ouais. Ouais, enfin bon, passons, oui.
Pensez-vous vraiment que la France soit encore un pays gouvernable?
Bien sûr, moi, je suis tout à fait convaincu que c'est...
Nous avons, enfin, peut-être pas les mêmes que ça, mais j'ai quelques recettes.
Ça, alors là,
moi, je donne pas mes recettes parce que
moi non plus.
On commence à parler de camps de transit et de trains spéciaux.
Non, faut pas. Mais voilà. C'est hors de question.
Donc on dit rien. Ça sera la surprise.
Ça, voilà.
Je suis beaucoup plus pessimiste que vous parce qu'il y a beaucoup plus de crétins en France que les 5,5 millions qui ont voté Le Pen.
Mais c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de résistance ou de dissidence. Si les pays se gouvernaient avec l'intelligence, depuis le temps, ça serait.
Et puis il faut pas.
Deux siècles que c'est fini.
Voilà, il faut pas porter un jugement trop négatif ou trop désespéré sur ceux qui ont voté pour le président Chirac, parce que souvent homme varie. Oui.
Que pensez-vous du Premier ministre anglais qui a trouvé répugnant le vote Front National?
Je voudrais savoir quelle déclaration il a faite, parce que je sais quel anglais pratique les journalistes, et je voudrais savoir quel mot il a utilisé, parce que répugnant, c'est la traduction qu'a donné un des adeptes de la sous-culture journalistique qui nous empoisonne et qui nous bourre le crâne.
Oui.
Alors, ne sachant pas ce qu'a dit exactement Blair, qui par ailleurs est un type extrêmement déplaisant, je préfère m'abstenir de tout jugement. Je serais étonné qu'il ait dit répugnant quand même.
Oui. De toute façon, Blair est un anglais, donc voilà.
Oui, son opinion, je m'en rends compte.
Voilà.
Une auditrice nous dit, ma petite fille de 9 ans est abonnée avec sa classe au Petit Quotidien. Mm-hmm. Dans le numéro du 3 mai, il y avait un article de Zidane expliquant aux enfants qu'il ne fallait pas voter Le Pen.
Et voilà.
9 ans, c'est CE2 ou CM1.
Oui, mais ça fait... Écoutez, je suis désolé, mais ça fait des années qu'on dit que ces journaux, ces prétendus quotidiens pour enfants... Il y a eu des papiers dans Présent. Moi, j'ai fait des papiers dans Minute à l'époque. Que ces prétendus quotidiens pour enfants sont simplement des organes de propagande nazie.
Oui,
au sens de la propagande nazie ou de la propagande stalinienne. Mmh. C'est fait pour bourrer le crâne des gosses, et c'est scandaleux, et tous les parents responsables et adultes devraient protester dans les écoles violemment contre la distribution de ce genre d'organes.
Interdisez la lecture de ces quotidiens et sortez les enfants de ces écoles.
Mais voilà, c'est tout. C'est...
Quand on
parle des Corses nationalistes, ce sont des gens très bien. Quand on parle des Français nationalistes, ce sont des fascistes.
C'est plus tellement vrai en ce qui concerne les Corses, parce que maintenant, le nationalisme est devenu quelque chose de tellement abominable que même les Corses n'ont plus le droit de l'être.
À propos de Adeline, je crois que malheureusement, c'est un libéral.
Alors bon, on va arrêter
là,
ici.
Il faut qu'Adeline soit là pour.
Non. On va... Est-ce que tu veux rester encore 5-6 minutes avec nous en deuxième partie d'émission, Serge?
Je suis à la disposition de usted.
Eh bien, agraciamos beaucoup, beaucoup. Alors on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Thank you.
merci de passer la soirée en notre compagnie à 21h, tout à l'heure dans les soirées musicales série jazz, et puis à 22h, les musiques de films avec ce soir des œuvres de John Williams. Et puis tout de suite, deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria et de Jacqueline Levenbrück, diffusé en direct mercredi 15 avril 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, nous revoilà pour la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Sans Serge de Bekech, si Serge de Bekech au téléphone. Vous êtes encore là, mon bon Serge?
Eh oui.
Eh ben, écoutez, alors on va pouvoir se disputer un peu. Alors, attendez, Victoria, il y avait encore des messages à nous lire là.
Mais vous vouliez que je redise celui sur Adeline?
Oui. Contrairement à ce que dit Serge. Quoi?
Non, on va croire qu'on fait comme Chirac, on organise la claque.
Allons-y.
Je crois que, malheureusement, que M. Adeline est un libéral.
Voilà, c'est un libéral. Il faut quand même, je dise, voilà, mes amis, il faut quand même bien le savoir. Ce sont des libéraux, ce sont des Chiraciens, à mon avis, ils sont aussi pédophiles.
Ah. Oh!
Si, ils sont aussi pédophiles. Ils mangent gras le vendredi saint, ils pètent en public. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre sur Marilyn? Non, c'est absolument, ce n'est pas supportable. Ces choses-là ne sont pas supportables. On peut avoir le point de vue qu'on a, il est dit qu'on veut sur Marilyn, on n'aime pas le personnage, on n'aime pas la politique qu'il défend ou qu'il essaye de promouvoir avec les moyens matériels limités qui sont les siens, mais il faut pas quand même l'accuser de ses turpitudes. Or, je m'aperçois que sur Internet, un journal dont je ne citerai pas le nom, qui est un journal entièrement fabriqué par des gestapistes, c'est-à-dire des petits flics de la pensée, se permet de juger un personnage d'une qualité intellectuelle et d'une qualité morale irréprochable. Ça fait 20 ans que je le connais, hein, bon, le traiter absolument tous les noms, et d'ailleurs d'associer d'autres personnalités, dont moi d'ailleurs, à ses turpitudes. Alors, ça commence à bien faire. Je sais parfaitement d'où vient l'offensive. Je sais d'où ça vient. C'est tellement clair et tellement limpide que ça ne mérite même pas l'ombre d'une discussion, mais je préviens quand même ces personnes qu'elles soient extrêmement prudentes, parce que la 17e chambre n'est pas faite seulement que pour les papillons.
Oui, mais je crois que c'est pas, enfin, bon, c'est évidemment pas là-dessus ou sur ce genre de truc que je porte mon commentaire. Et mon commentaire, moi, il est strictement politique.
Le mien aussi.
J'ai dit à Yves-Marie ce que je pensais de son initiative au début, et je regrette de voir que ce que j'avais prévu est en train de se produire. Quoi, c'est tout. Voilà.
Non, mais nous sommes d'accord. Nous peut-être. Serge, partageons-nous à peu près la même analyse? Moi, à mon avis, je pense que la chose... Bon, ça se discute, encore une fois, et s'il était là, on pourrait en discuter, et il ne faut pas, nous n'avons pas le droit de crucifier ou de tuer une personnalité politique qui a un rôle en France et qui a une capacité d'analyse très intéressante. Nous n'avons pas le droit, ni l'un ni l'autre, de la crucifier. Il n'est pas là, on ne peut pas le faire. Par contre... Sachant d'où viennent les coups qui lui sont destinés, et par ricochet pour moi et pour d'autres, je dois dire que je préviens solennellement ceux qui en sont à l'origine de faire extrêmement attention, parce que j'ai beaucoup moins de patience qu'Yves Marianne Lille. Voilà.
Eh ben écoute, ils sont prévenus comme ça.
Alors ma petite Victoria, j'ai encore des petits
comment
messages.
Comment se fait-il que Jacques Chirac ait nommé un gouvernement de gauche il y a 5 ans et qu'aujourd'hui il nomme un gouvernement à droite? Qui peut m'expliquer ce fait?
Alors voilà, il y a comme un défaut.
C'est facile.
Serge, tu as un commentaire à faire là-dessus?
Oui, j'ai d'abord le premier commentaire à faire, c'est qu'il n'a pas nommé de gouvernement de droite.
Voilà.
On a vu qu'il a nommé un gouvernement à droite. Parce que c'est vrai que Raffarin... Que Le Pen a surnommé génialement, d'ailleurs, Raffarin de Ramascon, ça je crois. Je dois dire que, vraiment, c'est le plus beau surnom qu'on ait jamais donné à un homme politique. J'aime bien Raffarin, je trouve que je l'ai connu il y a une vingtaine d'années. Je crois que c'est un type pas mal, au fond. Mais dans son gouvernement, si on considère qui est, par exemple, le ministre de la Culture... De présenter cet homme-là comme un homme de droite, c'est vraiment plaisanterie. C'est une plaisanterie.
Je crois qu'on aura tout. On aura tout eu. Enfin bon, allons-y gaiement. Oui, Victoria.
Pour enchaîner, Luc Ferry a déclaré vouloir donner la primauté non à l'acquisition des connaissances, mais à une réflexion sur le sens.
C'est beau.
Puisse-t-il apprendre à lire à sa dernière née sans qu'elle connaisse l'écriture?
L'éducation nationale, c'est dévolu au Ferry de père en fils.
Et tu donnes de Versailles qui vous dit ça.
Il y a une chose qui est amusante, enfin qui est amusante, qui est quand même significative, c'est que immédiatement installés dans leur fauteuil ministériel, ils ont pratiquement tous rivalisé de vitesse pour dire des conneries. Hein. Ça, c'est incroyable. Alors, moi, je dois dire que là, le Charette qui dit naturellement il n'y aura pas d'amnistie, bon, ce qui oblige Raffarin.
Ah non, c'est pas. Attends, c'est pas Charette, c'est Robien.
Robien. C'est la même chose. Alors oui, Robien, effectivement, qui annonce qu'il n'y aura pas d'amnistie, ce que oblige Raffarin à dire, mais si, il y aura une amnistie. Bachelot, qui immédiatement prend parti pour le nucléaire, elle a raison, je le répète, à mon avis, hein, mais elle a eu tort de le faire, c'était pas le sujet, c'est complètement hors sujet. Sarkozy, qui va faire le guignol dans les banlieues avec sa voiture de fonction, histoire de recevoir 3 ou 4 cailloux, parce qu'il savait pas, comprenez, Sarkozy, il a fallu qu'il aille voir, ça fait des années que toutes les radios, toutes les télévisions, tous les journaux et tous les citoyens lui disent, mais il y a des cités interdites dans lesquelles on peut pas aller, parce que vous allez recevoir des cailloux, parce qu'on brûle
c'est pas possible.
Non, il a voulu aller
c'est
voir.
C'est pas possible, ben voilà, mais il a vu.
On raconte d'ailleurs que Balladur avait eu la même réaction, je sais plus dans quelle occasion, où il était allé dans un quartier un petit peu particulier, il avait dit, mais c'est incroyable, il y a beaucoup d'immigrés. Mais forcément, c'est des gens, ils sortent de leur appartement de leur appartement de fonction, ils montent dans leur voiture de fonction, ils vont à leur bureau de fonction, ils vont dans des palais de la République. Et quand ils croisent un nègre ou un arabe, c'est généralement...
Quand ils croisent un homme de couleur ou... Non, attention.
Moi, je prends le dictionnaire. Hein, Larousse...
Alors, attendez, Victoria, une question à vous poser. Moi, une question, je vous tue.
Une question.
Un chauffeur ou un huissier. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait 12 millions de chauffeurs et d'huissiers en France. Donc quand ils vont dans les banlieues, ils ne comprennent pas ce qui se passe.
Serge, encore un message. Allez.
Croyez-vous que les manifs écolières étudiantes trotsko-gauchistes vont être efficaces et terrorisantes aux législatives?
Mais je ne crois pas du tout. Je crois d'abord que l'époque ne sera pas la même. On va être en plein dans les examens. Ils vont être obligés de bosser parce que là, comme ils ont fait les guignols pendant 15 jours à cheval sur avril et mai, ils n'ont pas du tout travaillé. Donc ils vont tous être bananés aux examens. Il va falloir quand même travailler un petit peu. Et donc ils vont pas. Puis même, ça n'a aucun caractère impressionnant, ces manifestations. C'est des monômes.
C'est alors, totalement...
Le monôme des zombies?
Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que on pouvait s'attendre quand même à ce que, soit au lendemain du premier tour, soit au lendemain du deuxième tour, il y ait une insurrection des banlieues.
Non, il n'y a pas.
Au lendemain du premier tour, parce que les gens auraient dit c'est pas supportable, on est en danger, etc. Et au lendemain du second tour, voilà, on a gagné, on a dicté nos lois. Pas du tout, il ne s'est rien passé. Rien.
Bizarre.
Mais non, c'est pas bizarre, moi je crois. C'est une question de culture. On n'a jamais vu des bergers égorger les troupeaux. Les bergers, hein, ils conduisent les troupeaux, ils les tondent. De temps en temps, ils prennent un agneau pour faire un méchoui, mais on n'a jamais vu un berger égorger la totalité du troupeau pour son plaisir. Voilà, c'est tout.
Serge, je te laisse encore une minute. Eu égard au fait que tu es en train de manger sur ma partie et que tu auras en principe 3 heures la semaine prochaine. Ouais. Me trompais-je ?
Non, tu ne te trompais pas.
C'est sûr, cette fois-ci. J'ai pas besoin de venir à 18h à la radio. Non. Bon, alors c'est très bien. Voilà. Alors encore un petit mot de Victoria, non ? Non, vous voulez pas lire ce message.
Non, pas tout seul.
Faudrait
une contrepartie.
Ah là, courageuse point téméraire.
Je méchant, il faut les lire.
Oui,
bien sûr.
Non, monsieur,
moi,
oui.
Voilà. J'ai regretté d'avoir voté pour Le Pen au deuxième tour. On entend dans son intervention sur Radio Courtoisie le lundi matin. C'est désolant.
Oui, il y a eu. Je pense que c'était chez le commandant Guillaume, le président Le Pen était un petit peu.
Je n'ai pas.
Voilà. Enfin bon, passons. Voilà, mon cher Serge, merci beaucoup d'avoir assumé par téléphone ta première partie d'émission. Et puis.
On en
recausera, t'inquiète pas, oui. Et puis bon, les auditeurs te retrouveront cette fois-ci en chair et en os la semaine prochaine pour une émission de 3 heures.
Alors en tout cas, pour autant que je sois coupable de ce malentendu,
c'est cela, oui.
Je présente mes excuses aux auditeurs.
C'est cela. Et moi, je sens le pâté.
Je te donnerai des explications.
Non, il est vrai qu'on a quand même beaucoup bricolé ce programme et qu'on sait plus trop où on en est. Enfin voilà. Donc nous sommes là. Merci de ton intervention. Je pense qu'elle aura satisfait les auditeurs de l'indisant d'ailleurs que si c'était ça des émissions préparées, non préparées, il valait mieux continuer à faire des émissions non préparées.
Improvisées.
Ce qui est très agréable, ça nous apprendra à préparer nos émissions.
Oui, c'est ça.
Cher Serge, que Dieu te garde.
À la semaine prochaine.
Et puis à la semaine prochaine avec les auditeurs. À très bientôt.